Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Les tontons. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh merde!
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingue.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudhommesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.
Bonjour à tous, j'aime bien laisser un blanc, ça commence bien.
Ça commence par un blanc, oui. Non, je voulais simplement en citer une, quoi. C'est pour commencer à ennuyer le monde, quoi. La contre-révolution est la lutte du principe des privilèges contre le principe d'émancipation.
Oh là, bon, alors on va y réfléchir toute la journée. Salut, vous avez reconnu la voix douce et suave d'Alain Guillot, LHL, Gilles Bourouille, pour vous accompagner en 7h et en direct. En ce jeudi matin où il fait plutôt un temps vachement sympa et qu'on ferait presque, on aurait bien fait l'émission sur la place de la mairie. Bon, il caille encore un peu, mais.
Exactement, avec une autorisation municipale. Et préfectorale. Donc, un truc aurait été discuté au niveau d'un du dernier conseil.
D'une façon démocratique et même jusqu'à la préfecture s'il faut. Hein,
d'une façon démocratique. Tu sais ce que je pense de la démocratie.
Il aurait peut-être même, voire, on serait peut-être allé au salon de la agriculture, flatter le cul des vaches voir si...
Voilà. Et puis goûter leur bière et tout, parce que là on a affaire à des professionnels et puis à des gens qui savent vivre, ont un table.
Ah, au moins ça, la preuve, je me suis rendu compte ce matin sur une anecdote comme ça au fun, en faisant la petite revue de presse de dernière minute, que McDo était très très présent au salon de l'agriculture depuis que José Bové a pété le McDonald's en 2009, si je me souviens bien, et ils sont présents avec un lobbying hallucinant, donc c'est un endroit vraiment sympa.
C'est les nouveaux complices à José, alors
voilà,
si je comprends bien.
C'est un salon très sympa. Bonjour donc à toutes et à tous, je vous disais, vous êtes en direct en ce jeudi matin, ça veut dire que vous avez le droit de nous téléphoner, de nous engueuler, de nous faire des sourires, de nous aimer au 05 65 49 29 94. On en profite pour faire un gros bisou à Chloé derrière la vitre qui nous fait la technique aujourd'hui, qui a l'air encore en pleine forme. Hein Chloé, coucou Chloé. Bonjour à Jean aussi, tu fais un stage Jean, c'est ça, on a un stagiaire. Petit rappel comme ça pour le fun, Radio Saint-Aff est un endroit où on peut apprendre plein de choses.
Alors,
on peut faire des stages antennes, on peut faire des...
Le stade de la séduction dépassé, salut les salariés.
Oh l'autre. Bon, au sujet aujourd'hui, à l'ordre du jour dans ces tontons, on va vous remettre une petite couche sur le renouvelable, non pas parce que on sait faire que ça, mais simplement parce que c'est quand même une thématique du présent et de l'avenir, et que toutes les pistes qui peuvent être envisagées, réfléchies, proposées aux citoyens que nous sommes vont dans le bon sens, au-delà des considérations politiques. Mais cette émission, vous commencez à la connaître, des tontons ne sauraient se satisfaire que d'être toujours dans le domaine philosophique, comme faisait remarquer Alain hier. Nous allons donc commencer par une petite revue d'actualité qui durera une petite vingtaine de minutes et après on attaquera dans le lourd. Alors dans l'actu, il y a eu quelques trucs sympas quand même. Cette nuit par exemple en Grèce, un projet de loi est passé sur les nouvelles coupes budgétaires dans le domaine de la santé. Ça a été réclamé par les créanciers qui ont dit oh là là, faut tailler dans le vif quand même, faut y aller ferme. Et alors dans le même temps, c'est vachement drôle, il faut faire des économies sinon on vous donne pas votre aide. Et dans le même temps, vous avez un groupe de représentants de 15 grandes banques, de fonds d'investissement. Ils se sont réunis, ils doivent se réunir aujourd'hui, ce jeudi 1er mars, pour décider si la restructuration de la dette grecque finalement doit déclencher des paiements pour les détenteurs de titres dérivés, on va expliquer. C'est le Wall Street Journal qui balance l'info. Ces paiements peuvent représenter plusieurs milliards de dollars alors qu'Athènes est proche d'un défaut de paiement. Formulé autrement, les banquiers, les gens qui ont prêté de l'argent à la Grèce se demandent si c'est le moment d'en tirer les dividendes, de récupérer les thunes alors qu'on est en train de demander à la population de se saigner. C'est quelque chose d'extraordinaire. Précisons quand même que certains investisseurs se plaignent du secret entourant le processus, l'accusent d'être plein de conflits d'intérêts, mais non, pas du tout. Aucune personne extérieure ne veut participer à la réunion, aucun compte-rendu ne sera distribué. Quand une décision sera annoncée, avant lundi, le comité ne fournira aucune explication et il n'y aura pas de possibilité de faire appel pour les investisseurs. Précisons quand même que les sociétés qui participent à ce comité sont connues, elles s'appellent Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan & Stanley. Par contre, le nom des représentants, lui, n'est pas rendu public, de même que l'exposition de chaque firme ou personne à la dette grecque. Formulé autrement, voilà la nouvelle démocratie, continuons comme ça, ne changeons rien, tout va bien.
Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses, Alain ?
Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que j'ai quand même pas mal de thunes qui sont placées
en Grèce.
Oui, parce que je les ai mis en stage de recyclade.
Oh, c'est joli ça, elle est belle. Et bien, de toute manière, vous savez quoi, si ça vous plaît pas, vous avez qu'à mettre votre argent dans une entreprise qui est très très en forme en ce moment, qui s'appelle Costa Croisière. Ah moi, oui. Je vous encourage, mettez vos thunes, retirez vos thunes de Grèce, mettez vos thunes à Costa Croisière, parce que même si tout coule, à commencer par leur bateau, vous avez une chance de terminer aux Seychelles. C'est quand même pas mal comme...
Ouais. Ah,
bon,
ouais,
pas plus vrai. Que ça. Allez, on va faire un peu plus fun. IKEA, vachement fun, s'est procuré, c'est une information hallucinante. IKEA s'est procuré une info canard enchaîné. S'est procuré depuis longtemps des fichiers de police et de justice pour fliquer ses salariés, voire certains clients.
Oui.
C'est, voilà.
Bon, oui,
et voir des fichiers de justice. Comment ça peut arriver chez IKEA, ça ? On achète des fichiers de police maintenant ?
De toute façon, il y a des fichiers partout. Il y a de la surveillance partout. Partout. Hein, je veux dire, moi, avant-hier, j'ai vu
ah ouais, raconte.
Les tuniques bleues débarquer à la maison, tu vois.
Burberry.
Sur le sentier de la guerre, bien sûr. Avec les lunettes de soleil et tout. Tu sais, le truc... hésitant quand même.
Mais pourquoi, il y avait une raison particulière ? Tu recherchais par la police ?
Non, mais il y a...
Chut, entre nous.
Moi, je pense que, si tu veux, il n'y a pas de raison particulière au fait qu'il y en ait une à emmerder le monde.
Ouais, c'est
tu
une manière de... Ouais, non, mais d'accord,
c'est
voilà.
Une façon de voir
mais
aussi.
Comment ces fichiers, qui sont des fichiers quand même nationaux, publics, a priori, et protégés par une certaine forme de secret, comment ces fichiers peuvent arriver dans les mains d'une boîte comme IKEA ?
Oh ben moi je pense que c'est parce que au niveau des ministères, au niveau des états-majors, je veux dire, t'as des gens qui ont trouvé un moyen élégant de se faire du pognon. On a connu ça au ministère des Armées avec quelques divulgations de pseudo-secrètes polichinelles, tu vois. Mais ça rapporte quand même, ça rapporte toujours des histoires comme ça. Faut pas croire, on a toujours l'impression que un ministère, les fonctionnaires, etc., etc., sont des gens d'une intégrité remarquable qu'on trouverait nulle part ailleurs parmi les ouvriers, parmi le peuple, tu vois, parce que le peuple, c'est toujours l'endroit de la menace.
C'est quoi, hein, ça ?
Eh ben oui, c'est quoi le peuple ? C'est l'endroit de la menace. Et en fait, tu te rends compte que non seulement t'es trompé dans ce qui caractérise les informations que ces gens-là te distillent, mais en plus, ils font ce qu'ils veulent des informations qui leur paraissent pouvoir faire l'objet d'une rentabilité quelconque. C'est classique, je veux dire, archi traditionnel. Tu sais, il faut bien comprendre qu'il y a il y a une grande partie des financements des partis politiques qui passent par ces systèmes.
Ouais, ouais.
Comme le financement des services secrets passe par la revente de la drogue.
C'est pas nouveau.
Non, mais
alors, on en arrive à souhaiter.
Le seul truc, si tu veux, c'est que le seul truc qui me paraît nouveau, encore, c'est parce que je sous-estime toujours tout ce qui caractérise une réalité. Pourtant, j'ai un certain vécu en la matière. Je pense qu'ils nous prennent de plus en plus pour des demeurés. Et là, je me demande si on n'aurait pas intérêt à leur faire savoir que peut-être est-ce qu'ils commettent une erreur.
Il nous reste quelques neurones.
Quelques neurones. Ça veut dire que dans nos esprits, dans nos boîtes crâniennes de demeurés, quoi, il reste un peu de chimie cérébrale.
Alors, ce qui est hallucinant, bon, on imagine bien que certains ou certaines d'entre nous puissent arriver à la pensée derrière en disant finalement, presque, on en arriverait à souhaiter un système un peu à l'américaine où on puisse se réunir en collectif de citoyens et porter plainte pour divulgation de la vie privée, pour des choses comme ça, mais on comprend mieux si on dit ce genre de choses, pourquoi tous ces gens sont devenus comme ça, curieusement, avocats. Ou plus exactement, pourquoi certains élus accèdent d'une façon absolument hallucinante et sans faire d'études, d'une façon très rapide à la fonction d'avocat.
Ah ouais.
Et comment monsieur de Villepin, par exemple, peut posséder un cabinet d'avocat dans un immeuble qui vaut 1,3 million d'euros avec son cabinet. Non, c'est pas moi, ce sont mes collaborateurs avocats. Ce type est devenu avocat en 15 jours, j'exagère à peine, la procédure accélérée pour les élus est hallucinante. Sarkozy est avocat. Ça permet de comprendre pas mal un peu le process.
Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve que de toute façon,
c'est
tu sais, avocat, c'est un métier d'avenir. Hein,
ah oui.
Comme il y a de l'avenir dans la colle et le scotch.
Voilà. J'en ai une un peu plus fun ce coup-ci, ce que je l'avais dit pour celle d'avant, mais j'ai renversé la ligne. Alors, ça va te plaire. En 1973, en pleine révolution sexuelle, les sextoys sont jugés non pornographiques parce que faisant partie de l'évolution. Donc, c'est quand même quelque chose, voilà, c'est la libération des mœurs. On se dit finalement, c'est quand même pas méchant. Eh bien, sachez, c'est une information BFM d'hier soir, qu'en 2012, deux assos catholiques viennent d'utiliser une loi de 2007 posée par Sarkozy pour fermer une boutique à Paris. Son gros défaut, elle était située à moins de 200 mètres d'une école. Alors, le a été, son magasin s'appelait 69, avec beaucoup d'humour. Le type a été obligé de fermer boutique parce qu'il avait trois sextoys en vitrine, deux assauts Kato qui protégeaient une école Kato. Voilà, voilà la France de 2012. C'est un retour en arrière de 40 ans dans le concept.
Oui,
voilà.
Encore quand tu dis c'est un retour en arrière de 40 ans, je te signale qu'il y a 30 ou 40 ans, je veux dire, les premiers qui ont protesté contre parmi ceux qui ont contesté, si tu veux, les premières atteintes à destination de la liberté et sexuelle et à destination de ces magasins-là, c'était quand même les marchands de piles, hein.
Il est con. Pardon, excusez-moi, ça se dit pas à l'antenne. François Hollande, allez, on va en parler de Slim Fast deux minutes là. François Hollande est allé en Angleterre et il est tout content. Enfin, moi, c'est ça qui m'a fait rire. Soutenu par les travaillistes britanniques et il leur a dit je veux réguler la finance. Alors, quand on voit ce que le travailliste britannique Tony Blair a fait en Angleterre, ça fait doucement rigoler. On imagine bien comment on va attaquer la finance chez les travaillistes britanniques qui ont quand même fait un peu la gueule sur les 75%. Ils ont trouvé quand même que 75% de taxation au-delà d'un million d'euros par an, c'était quand même un petit peu abusé. C'était beaucoup, quoi.
Ah ouais.
Voilà.
Bah écoute, ça participera aux statistiques. T'en as qui sont à 25%, d'autres qui sont à 30%, lui est à 75%.
Voilà.
Je veux dire, il a mis toutes les chances de son côté.
C'est un peu la surenchère. Ah ouais. Précisons d'ailleurs sur Tony Blair qu'aujourd'hui, ce brave travailliste Tony Blair, donc le travailliste, rappelons, si parmi vous, il y a des gens qui arrivent d'une autre planète, que le travailliste britannique, le nouveau travailliste britannique, le New Labour est une espèce de, on va dire, de personnage qui est capable de se définir de gauche et qui aujourd'hui, c'est le cas de Tony Blair, vend les secrets qu'il a acquis pendant son passage au pouvoir en tant que consultant à des chefs d'État et à des chefs de gouvernement étrangers. C'est extrêmement rassurant, l'espèce de porosité entre le privé et le public, c'est-à-dire que ces types-là vont se mettre à la tête d'un État pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils vont absolument tout savoir et derrière, ils se retrouvent dans le domaine privé, ils vendent les bijoux de famille. C'est un truc de fou. Voilà.
Ah oui, puisque moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont tous à écrire leur mémoire avant de la perdre.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, on est content que François Hollande soit soutenu par les travaillistes britanniques. Allez, une petite dernière avant la ZAC. Le Parlement vote la création de 24 000 places de prison en 5 ans. C'est une info du Monde de ce matin. Alors, ça a été évidemment réfléchi longuement sur la base d'un rapport d'un député qui s'appelle Éric Ciotti, un grand démocrate. Éric Ciotti, qui est un des plus faf, excusez-moi le terme, à l'UMP.
C'est quoi ça,
Je sais pas. Donc le rapport Ciotti arrive à aboutir donc au vote de 24 000 places de prison. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va permettre à chacun un petit peu de juger pour qui, comment se positionner. Tiens, finalement, un mec comme Bayrou, putain, c'est peut-être l'alternative de la droite, ce mec-là, finalement, peut-être que c'est moins sale, vaut mieux voter Bayrou que de voter Sarko. Eh bien, sachez que, évidemment, le centre a voté l'intégralité de cette mesure. La gauche y est opposée. Alors, on leur a évidemment opposé le fait de faire preuve d'angélisme. Bayrou les a taxés, Bayrou, son parti, les a taxés, justement, d'angélisme en disant les socialistes n'ont rien compris. Précisons quand même que les 24 000 places de prison, et c'est quand même relativement intéressant. C'est un cadeau au privé phénoménal parce qu'évidemment ce sont des places qui vont être privatisées. C'est la nouvelle manière de monter des prisons. Il faut savoir qu'une place de prison, ça ramène, c'est un business qui aux États-Unis ramène énormément de thunes. Pour vous donner une idée, ça coûte 100 euros par jour et par détenu. 3000 euros par mois et par détenu. Grosso modo, c'est 1 milliard d'euros de coûts de fonctionnement. Et je lisais un petit post d'un lecteur du Monde qui m'a fait plaisir. Le type, il disait, c'est sûr que rapporté au choix de Hollande d'embaucher des fonctionnaires pour éduquer nos enfants, on a une belle opposition quand on nous dit ça coûte cher d'embaucher des profs. C'est vrai qu'il vaut mieux fabriquer, filer 24 000 places de prison au privé.
Ouais.
C'est beaucoup plus intéressant.
Moi, ce que j'aime bien, même dans la façon dont tu présentes les choses, tu sais, c'est toujours le sempiternel rappel à la notion alternative. Tu vois, c'est un parti alternatif.
Oui.
C'est une proposition alternative. Je me permettrai une considération qui n'a rien à voir avec une diversion, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Je vous rappelle quand même que alternatif, ça fait partie des processus qui s'identifient à travers un changement de sens régulier. Tu vois ? Ça veut dire que
précise.
Coup pour, un coup contre, ou un coup positif, un coup négatif. C'est ce qu'on appelle alternatif.
C'est être en opposition, alternatif, non ?
Non, ça se traduit. L'alternatif signifie se traduire par un changement de sens.
C'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'aimerais bien qu'on a un petit peu de temps, là, qu'on ouvre un peu là-dessus. Depuis plusieurs années, évidemment, beaucoup de gens ayant du mal à se positionner, à commencer, avant de parler de positionnement politique, dans le positionnement intellectuel, personnel, à se positionner politiquement, parce qu'on sait très bien qu'en réalité, si on arrête d'être un petit peu focus, nous sommes tous les mêmes. Nous avons des choses de gauche au fond de nous, des choses de droite au fond de nous, des choses libertaires au fond de nous, des choses humanistes au fond de nous. Et elles ont différentes priorités par rapport à des critères très souvent, malheureusement, éducatifs, puisqu'on reproduit essentiellement ce qu'on a reçu quand on était jeune. Et beaucoup de gens aujourd'hui se sont positionnés en disant moi je me définis alternatif. Alors évidemment on a une partie des gens proches de José Bové, des altermondialistes, hein, alternatif, hein, on est bien d'accord, alternatif mondialiste. Moi j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans cette logique. C'est quoi finalement, c'est un fourre-tout au niveau politique les alternatifs? Parce que ça peut regrouper 150 modes de pensée, c'est un petit peu ce que tu voulais dire.
Ouais, et puis si tu veux, pour moi, c'est surtout le fait que ça laisse le champ libre, puisque c'est en tout état de cause un facteur de changement de sens, ça signifie que ça laisse le champ libre à des modifications circonstancielles de position, tu vois. Autrement dit...
Je retourne ma veste, comme disait Dutronc, c'est ça que tu sous-entends?
C'est pas ce que j'ai voulu dire. Bon, c'est vrai que c'est assimilable, malgré tout.
Oui, c'est ce que j'ai ressenti,
mais... Et non, puis c'est l'éternel problème de toutes ces sociétés qui crèvent de leur confort, où il est toujours difficile de se déterminer à destination d'un choix, quoi.
Ouais, alors là, ce que tu dis effectivement est intéressant. C'est-à-dire que tu veux dire par là que le confort finalement aurait tendance, bon, je suis assez d'accord, enfin je partage ton opinion, mais que le confort serait finalement annihilateur, si on peut utiliser ce terme, de tout mode de raisonnement objectif, quoi.
Ah, moi je pense que le confort, comme l'intégrisme, c'est une annihilation du libre arbitre.
Ouais, bah oui, c'est un truc à méditer, effectivement, et puis c'est vachement intéressant, parce qu'évidemment, la notion de confort, bah, elle est en lien direct avec le sujet qui va suivre,
savoir... Et le problème du libre-arbitre, si tu veux, c'est qu'il est difficilement supportable, dans la mesure où il y a peut-être une notion d'arbitrage, mais il y a surtout une notion de liberté.
D'autonomie, ouais.
Et c'est vrai que, comme me disait quelqu'un qui n'est pas célèbre, sauf qu'à mes yeux, il est représentant d'une certaine notion, en l'occurrence, mon grand-père, il me disait, tu sais, si on se réveille un matin, et que dans la nuit, les autorités aient décidé qu'on allait être libre, ça va être la merde.
Ben ouais, c'est ça. Ouais. Alors c'est très intéressant, ça introduit la suite, c'est-à-dire l'autonomie dans le confort, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faudra remettre en question une partie du confort pour gagner en autonomie?
Non, le
prochain sujet, ça?
Il n'y a pas de confusion possible. On peut s'en expliquer.
Tu me disais en début d'émission qu'il y avait une information qui était importante.
Il se fait que, indépendamment de mes fréquentations, comment dirais-je, douteuses, il y a très très longtemps que... Ben oui, celui-là, c'est une confirmation. Il y a très longtemps, si tu veux, que je participe à des comités d'action laïque, des organisations ou des commissions qui sont reliées à la Ligue de l'enseignement. Mmh. Et je voudrais lire un tout petit texte, parce que ça me semble être d'une importance capitale. C'est un petit texte sur la composition du groupe européen d'éthique, des sciences et des nouvelles technologies. Ce groupe a pour mission d'examiner les questions éthiques liées aux sciences et aux nouvelles technologies et soumet des avis à la Commission européenne dans le cadre de l'élaboration des législations ou de la mise en place politique communautaire. Donc, je suis, moi, personnellement, inquiet sur la composition du groupe présenté comme une instance pluraliste, indépendante et pluridisciplinaire et, ajoute-t-il, neutre. En effet, tenez-vous bien, sur les 15 membres, 7 membres sont liés à la religion catholique ou protestante, 4 professeurs de théologie, 3 professeurs dans des universités catholiques. On ne retrouve dans ce groupe que 2 seuls représentants des sciences, avec un chercheur en génétique et un professeur de médecine. Les nouvelles technologies n'ont par ailleurs aucun représentant dans ce groupe. Force est de constater que la promesse officielle d'indépendance et de pluralité est loin d'être respectée. Pire, lorsqu'on regarde au-delà des biographies officielles, il apparaît que parmi les membres, 2 représentants sont connus pour être des militants anti-IVG et défenseurs des droits du fœtus. Un autre membre est militant anti-euthanasie. Enfin, la représentante française, tenez-vous bien, ne peut être elle aussi considérée comme une membre indépendante et neutre. Enseignante à la faculté de théologie de Strasbourg, elle fait partie de l'ordre des Vierges consacrées et a donc pour mission de porter au cœur du monde l'amour de Dieu et de promouvoir la religion dans les sociétés, dans la société. Il est anormal et incompréhensible que des personnes liées à la religion soient surreprésentées dans un groupe chargé des questions éthiques au niveau européen. Le fait même que les biographies officielles occultent les appartenances religieuses pour ne se référer qu'aux professions des membres est une atteinte grave à la liberté de conscience à laquelle je fais très souvent appel, hein, à la liberté de conscience des citoyens européens. Ils s'inquiètent tout particulièrement pour les prises de position futures en termes de validation des évolutions scientifiques et du progrès social dans le domaine concerné. La composition de ce groupe nie et exclut toute morale, éthique et laïque. Enfin, il est regrettable et même scandaleux que la France ait fait le choix de nommer une religieuse en civil pour la représenter dans ce groupe éthique.
Et
voilà,
oui,
ce que j'avais à dire en tant que représentant, enfin représentant en tant que participant de la Commission nationale de laïcité.
Ça mérite quelques minutes et quelques précisions. Cette manière que l'on peut avoir sur cette antenne de parler souvent de laïcité, il faut bien que chacune et chacun comprenne qu'il y a une histoire pour tous les tenant les défenseurs, je dirais, de la notion démocratique, d'une façon très limitée, on va dire, dans le sens assez étroit du mot. La démocratie, elle tient sur certains critères, et entre autres la liberté de penser. Avant de la liberté, avant d'être libre, on a quand même, a priori, la liberté de penser, sans qu'on nous impose certaines doctrines. Or, il s'avère que depuis, ça remonte à un petit moment, hein, ça remonte à l'élection, entre autres, mais même avant, mais bon, on va dire pour que chacun se souvienne, du cardinal Ratzinger au Vatican, où les analystes ont pu constater, se rendre compte que c'était pas très bon signe parce que ce doctrinaire représentait une branche extrêmement droitière et très conservatrice de l'Église catholique, pour ne pas dire qu'elle nous ramène quasiment à l'époque de l'Inquisition. Bon, là-dessus, on se rend compte que Madame Boutin, par exemple, se présente à l'élection présidentielle et que, comme par hasard, après avoir très certainement négocié une place importante dans le prochain gouvernement de Sarkozy s'il était réélu, laisse tomber cette place. On constate en parallèle l'attaque contre des cinémas ou contre des théâtres qui oseraient présenter des versions un petit peu non édulcorées de la religion ou de son représentant, j'ai nommé Monsieur Jésus. On se rend compte dans le même temps que Monsieur Bérou, lui, est favorable à la création de places de prison, le centre. Vous savez, ce centre qui a l'air clean à droite. Seulement, ce centre, rappelons quand même qu'à l'époque, il s'appelait l'UDF et qu'en réalité, rien n'a changé. C'est-à-dire que l'UDF, ça a quand même été cette droite dite chrétienne, cette droite catholique, qui sur l'échiquier, se positionne, paraît-il, plutôt au centre par rapport à l'UMP, au RPR, ex-RPR, qui serait très très à droite. Et ben, c'est quand même l'UMP qui a été le plus grand vivier de type proche, très proche de l'extrême droite, avec des pensées assez nauséabondes. Il faut se méfier des fois des positionnements. Moi, je vous dis franchement, cette espèce de poussée de cette droite, de ce retour finalement, parce qu'elle était un peu freinée sous Giscard, hein, ça un petit peu. Bon, le retour de cette droite chrétienne camouflée au centre, ça me fait extrêmement peur en parallèle avec tout ce que j'ai énoncé avant.
Ouais, voilà. J'ajoute à toute fin utile que pour moi, laïcité, c'est pas une philosophie, c'est pas une idéologie, c'est pas une éthique. Pour moi, la laïcité, c'est d'abord et avant tout un comportement. Tu remarqueras au passage que là, exceptionnellement, la laïcité n'est pas simplement réduite à l'école. Parce que la laïcité constitutionnelle en France, quand je dis que c'est un comportement, c'est vraiment ce que je pense de ce qui caractérise la laïcité, avec un paramètre important qui peut-être paraît être négligé dans la déclaration que je viens de faire, mais c'est que la laïcité, c'est d'abord et avant tout un enseignement de la tolérance.
Ben oui. Voilà. Ben oui.
Et si tu veux, malgré ce qui vient d'être lu, il n'en est pas moins vrai que tout le monde continue, grâce au processus laïque, à être autorisé à ne croire ou à ne pas croire.
Oui, c'est ça.
Ça signifie que, à mes yeux, être tolérant, c'est intolérer l'intolérance.
Ouais, puis au rythme où on va dans les médias, ainsi de suite, à nous montrer à une autre manière, il y a des références religieuses qui sont, ça monte bientôt, ça va devenir anormal de dire moi je crois pas, ça va devenir bientôt, on va être, vous savez, il y a une époque où fallait pas être croyant, et puis il y a des époques où il faut être croyant, et quand on tombe dans des époques où il faut être croyant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le religieux prend la place de l'État, et le religieux ne s'engouffre que quand l'État oublie sa mission.
Oui, et puis qu'en plus au niveau philosophique, il y a une confusion dramatique entre ce qui caractérise la croyance et la foi, puisqu'on peut avoir une foi laïque.
Dernière question. S'il n'y a pas d'État, s'il n'y a pas de religion, il y a l'autonomie. Est-ce que l'homme est capable, finalement, d'avancer sans un cadre, sans des gens pour lui dire ce qu'il doit faire ? Parce que c'est l'un ou l'autre, finalement, si on réfléchit bien. Quand ce n'est pas l'État, c'est le religieux. Ça fait 2000 ans que ça dure. Quand ce n'est pas le religieux, c'est l'État.
Tu ne fais une fois de plus que venir me taquiner à l'endroit du pouvoir.
Je n'ai pas résisté.
Je vais te répondre par une galipette qui n'en est pas une, puisque l'endroit du pouvoir est aujourd'hui représenté par la démocratie. Moi, je te dis et je continue à te dire que la démocratie, c'est la négation... c'est la négation de la souveraineté du peuple.
Mais du peuple en masse ou indépendamment, ou individuellement ?
Du peuple dans sa définition originelle.
Le peuple, c'est un mot qui me gêne, moi. C'est le peuple ou c'est l'individu ? C'est collectif ou c'est individuel ? J'ai une limite intellectuelle dans ton discours-là. Il y a un truc que je ne comprends pas.
Non, tu as une difficulté à être populaire. Tu viens en chercher les prémices à la radio. Mais je te comprends.
Je l'assume. Quand vous voyez le slogan en 2007, soyons populaires, on a vu ce que ça avait donné. Donc je revendique effectivement le fait de ne pas l'être. On va laisser Alain faire des galipettes. On va s'écouter un petit morceau de Zach. Vous avez le droit de nous téléphoner au 05 65 49 29 94 pour nous accompagner sur le débat qui suit. Le débat sur les énergies renouvelables. À tout de suite.
Je suis sous ton balcon. Christine, je reviens comme l'assassin sur les lieux de son crime. Mais notre amour n'est pas mort. Dis-moi que non. Depuis que l'on s'est quitté, je te jure que j'ai bien changé. Tu ne me reconnaîtrais plus. Et d'abord, je ne bois plus. Je suis rond, j'ai de mort. Je suis un salaud. Oh, Marie-Christine, je t'en prie. Chance encore. Oui. Recommençons. En moi, il y a du bon aussi. Ne fais pas plus noir que ça. Je suis bourré de bonnes intentions. J'ai trouvé. Maintenant il rigole sans moi. D'ailleurs je te les amène. Tu n'as qu'à leur demander. On est sous ton balcon. Comme Romeo Marie-Christine. Fais pas la sourde oreille à ce cri unanime. Je t'en supplie, mon trésor. Ouais, réponds, Marie-Christine. Ne me laissez pas seul. Bon, puisque c'est ça, je vais me saouler la gueule.
Tiens, oui.
Oh bah ça, Arnaud, c'est pas étonnant. Je me saoulais la gueule, il n'avait pas besoin de le dire. Arnaud, notre pote belge, sous ton balcon, ça s'appelle, et c'est Chloé qui nous a choisi ça. Retour merci, sur Chloé. Les tontons flingueurs avec Alain et Gilles. On vous accompagne encore une bonne demi-heure. Vous nous accompagnez, enfin, on est ensemble, quoi. Hein. Sujet, l'énergie, question vitale, campagne 2012, on en est où? C'est un peu un des effets suite à Fukushima. La question de l'énergie a commencé quand même un petit peu à rentrer dans la campagne. Enfin, on va dire qu'après des décennies d'omerta, on parle de sortie du nucléaire, transition énergétique. Le problème en France, c'est que le verre reste toujours à moitié vide, que les mecs de gauche comme de droite, à l'exception des écolos, ont un petit peu de mal à attraper les questions.
Le verre est à moitié vide, et en plus, il est dans le fruit.
Et dans le fruit, en plus. Alors, prisonnier d'un mythe du nucléaire tout-puissant, d'un lobby qui entretient volontairement la confusion entre électricité et énergie, on a des partis politiques qui n'ont toujours pas pigé, visiblement, que la révolution énergétique, bah, c'est un peu une nécessité, simplement parce que bah, l'atome, c'est pas viable. Le pétrole, il s'épuise. Et puis surtout qu'on devrait commencer à considérer ça comme une chance. C'est-à-dire que plutôt que d'invoquer tout le temps une relance industrielle en disant « Ah, on délocalise !» Les mecs, ils veulent relancer industriel, mais on sait jamais dans quel domaine. Ben là, ils seraient bien avisés de déceler que dans cette révolution, il y a d'énormes gisements d'emplois. Et puis les autres ont pris énormément d'avance. On est à la ramasse complète. Les Allemands ont créé 350 000 emplois pendant que nous, on s'arc-boute. Prenons un petit exemple encore. Les Portugais sont à 100% énergie renouvelable pour leur électricité en 2017, dans 5 ans. Alors, quelles sont les solutions? On a fait pas mal de fois dans cette émission le tour de solutions industrielles, enfin, de la manière dont les industriels essayaient de nous imposer leurs solutions d'une façon très centralisée. C'est intéressant aujourd'hui peut-être d'essayer de voir comment au niveau personnel, au niveau local peut-être, on peut arriver à faire cette transition énergétique, à ne pas confondre avec l'électricité.
Hein, ouais, bon, moi, la première chose que sur laquelle je vais
réagir
et redire, hein, c'est que tout ce qui peut être abordé comme étant de la discussion ou de l'échange que je veux fructueux sur l'énergie, à mes yeux, n'a de sens qu'à partir du moment où la première considération, c'est l'économie de l'énergie. Parce que, si tu veux, tout ce qui caractérise les hypothèses de production d'énergie, de toute façon, quel que soit le moyen, sont voués à l'échec. Quand ça ne sera pas au niveau de la production, ça sera au niveau du transport ou des difficultés qu'il y aura à un certain moment, ça a déjà été le cas, de bouffer la surproduction.
Donc calcul impossible avec la croissance. Calcul impossible avec la notion de croissance dans ce cas-là.
Ouais, ouais. Mais pour ramener les choses à leur endroit, il faut quand même... Je voudrais donner un certain nombre de précisions. Après, on s'enclenchera, mais... c'est vrai que le monde dans lequel on est, le monde contemporain, quoi, je constate qu'il est complètement dépourvu de modestie, d'humilité, particulièrement le monde dit scientifique. Aujourd'hui, les experts en tout et les spécialistes en rien, quoi, tout nous est présenté comme étant le fruit d'une connaissance ou d'une invention récente. Comme si nos prédécesseurs n'étaient que de sombres imbéciles dépourvus de la plus petite quantité d'intelligence. Et pourtant, hormis la centrale nucléaire dont la réalisation est récente, je signale à toutes fins utiles au niveau des chiffres, mais bon, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup d'appréhension à utiliser les chiffres, parce que quand on n'est pas en capacité de s'en expliquer avec l'interlocuteur, si tu veux, c'est toujours difficile. Souvenons-nous quand même que l'énergie nucléaire aujourd'hui représente 6% de la consommation totale énergétique du monde. Ça veut dire quand même que on est dans une situation qui est une situation de psychopathe, puisque c'est 6% de ces partisans de type d'utilisation énergétique qui mettent en danger la race humaine. Je veux dire, c'est complètement fou.
Je te rends
on
la
ne
parole
s'est jamais ouais. trouvé dans une situation de ce genre.
Je te rends la parole tout de suite. Petite précision pour la France du chiffre qu'Alain vient de donner. Il faut rappeler que le nucléaire, en réalité, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ne représente pas 80% de l'énergie, mais 80% de l'électricité. Ça veut dire qu'en réalité, le nucléaire ne représente que 20% de l'énergie totale consommée en France.
Voilà,
rectification
en France,
importante à toi.
En continue. France, c'est-à-dire voilà, 6% France, dans le monde.
Au niveau planète. Voilà. Je te rends la main, là.
Ouais, ouais, non, mais... et moi, je pense que bien avant la fausse crise énergétique, dès le XIIe siècle, par exemple, les Bretons savaient faire tourner des moulins à eau grâce à l'énergie des marées. Il y a 2000 ans, Héron d'Alexandrie nous faisait une fontaine sans énergie, à fonctionnement intermittent, c'est vrai. Robert Sterling invente le moteur, je veux dire, dans les années 1800, Sterling invente un moteur qui fonctionne à l'air chaud, c'est-à-dire les moteurs à piston libre. Le premier four solaire dans lequel on fond du métal, eh ben, c'est quand même chez nous Lavoisier qui, en 1746, le met au point. Becquerel qui nous fait l'effet photovoltaïque en 1830 et en 1873 Lord Kelvin qui nous monte la première pompe à chaleur.
On n'a rien inventé quoi, c'est ça que tu veux
rien
dire.
Rien du tout.
On invente rien.
Je veux dire que c'est tu vois, dans le domaine de l'éolien comme dans le domaine de l'hydraulique, c'est vrai qu'on n'a pas inventé grand-chose et je crois qu'il faut quand même relativiser, je te dis le discours des Alors le problème, si tu veux, le problème dans ces histoires-là, c'est que il y a une multitude de choses qui se sont faites, c'est vrai, un petit peu plus récemment. Je veux dire que t'entends aujourd'hui dans les plaidoiries des gens qui sont des partisans de l'énergie solaire, j'en fais partie. L'énergie solaire, pour moi, c'est global. Hein. Mmh. C'est-à-dire que ça concerne l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne.
Ouais, ce n'est pas que le photovoltaïque. Ouais.
Puisque tout ça, puisque tout ça, c'est, que ça soit l'hydraulique ou l'éolien, tout ça est favorisé par l'énergie solaire. Je dis bien. Et il s'est fait un certain nombre d'inventions. Tiens, à propos des inventions, petite aparté comme ça, je regardais l'autre jour une statistique. Depuis les années 1900, 90% des inventions françaises, je suis ni nationaliste, ni gaulois, ni cocorico, hein, mais 90% des inventions françaises ont fait l'objet d'achats, ces brevets ont fait l'objet d'achats et sont partis
à l'étranger.
Ouais. Dans le même temps, tu as un certain nombre de gens qui se sont appropriés des inventions étrangères. Par exemple, je me souviens, moi je faisais partie d'un groupe de recherche qui s'appelait la Complète. Et ben moi je me souviens qu'à l'époque on a été étonné de voir arriver le brevet de Monsieur Trombe sur les murs à propos de ces murs chauffants, alors que ces brevets avaient déjà fait l'objet d'une étude et d'une exploration par un gars qui s'appelait Steve Beer, qui était un beatnik du MIT. C'était en 1958. Alors toi, je veux dire, il faut tout repositionner au coup par coup quoi. Je veux dire le laser, les éléments photovoltaïques, la supraconductivité. Moi, je vous suggère de réfléchir sur les bus des diverses manipulations dont nous pouvons être victimes sous couvert d'informations dites scientifiques, car il ne s'agit pas d'une rétention pure et simple des connaissances.
Je vais faire une petite précision, toujours des petits chiffres balancés comme ça. On parlait des 20% donc de l'énergie totale seulement nucléaire. En réalité, pendant qu'on se concentre sur l'atome, on oublie qu'il y a un défi qui est beaucoup plus complexe derrière, qui est celui par exemple des transports, hein, qui induit le lien entre urbanisme et énergie, et pour lequel nous dépendons évidemment avant tout du pétrole. Il n'y a plus rien à voir avec le nucléaire. Il faut quand même préciser, ça me paraît important, que la mobilité représente 40% de notre consommation d'énergie. C'est pas un facteur négligeable.
Je crois que ça, on l'a déjà dit à cette antenne. Et ça vaut le coup de le répéter. Voilà, c'est vrai qu'on a 150 ans de capitalisme.
Alors pourquoi
pétrole.
On va avancer un petit peu. Pourquoi ça bouge pas en France? Il faut quand même. Il y a évidemment un argument majeur quand même. Hein. Alors l'argument du maintien de la grandeur de la France, mais il y a aussi le poids d'une organisation qui est très fermée, qui est celle des grands ingénieurs de l'État et entre autres le corps des mines, qui à ce niveau-là font un travail. Alain, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Parlons un petit peu de cette espèce de centralisation qui est faite en réalité. Les compétences, on va dire les choses plus simplement. Les politiques très rares exceptions près, n'ont pas les compétences. Il faut aller chercher des ingénieurs.
Ça, oui.
Ce sont les ingénieurs, c'est le corps majeur de l'État français est centralisé autour de ces corps d'ingénieurs. C'est eux qui prennent les décisions systématiquement. Les politiques ne sont que des marionnettes qui prêchent la bonne parole. Mais ces types, le problème, c'est que malgré le fait qu'ils soient extrêmement performants, parce qu'on doit au moins leur reconnaître, et ils sont reconnus à l'étranger pour ça, relativement performants, ils amènent un problème de taille, c'est qu'ils font de la rétention d'infos totale. Et c'est eux qui prennent toutes les grandes décisions, toutes les grandes décisions
J'irai dans ton sens. Je veux dire, j'ai eu le privilège et la chance de fréquenter une de ces grandes écoles, quoi. Et c'est vrai que tu es surtout formé à la rétention. Ça signifie qu'il y a une sous-évaluation de la compréhension de l'autre.
Voilà.
Ça, si tu veux, ça fait partie de ces philosophies inhumaines qui trouvent son maximum d'expression à l'école polytechnique, que je connais aussi, je veux dire, où là, vraiment, l'autre ne compte pas. L'autre, c'est du beurre. L'autre, si tu veux, il a une estimation, mais ce n'est pas une estimation humaine, c'est une estimation comptable. Voilà. Et ça s'arrête là.
Alors, est-ce qu'on peut contourner le corps des mines ? Est-ce qu'on sait les contourner ?
Ah mais non, mais attends, je veux dire, il faut bien comprendre que dans les gens de mon époque, hein, je vais parler de mon époque, et pour une raison très simple, c'est que c'est celle que je connais la mieux, tu vois. Tu as une multitude de gars qui ont été formés dans les écoles d'ingénieurs et qui se sont investis, justement, à destination de cet échange de connaissances, tu vois. Moi, j'ai passé mon temps à faire un certain nombre d'exposés, y compris à l'université, à Paul Sabatier, etc. etc. Tu n'intéresses, soyons clairs, hein, comme pour le reste, tu n'intéresses que 2% des gens.
C'est ça, ouais.
Il n'en est pas moins vrai que ces gens qui sont intéressés sont des gens sur lesquels il est possible de compter. Le problème, c'est que tu es toujours limité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es limité dans la possibilité que tu as de partager tes connaissances, parce que on limite ta capacité, je veux dire, à te présenter. Je veux dire, moi, je connais ça sur Saint-Afrique, par exemple, tu vois. Mmh. Je veux dire, moi, ça fait des années, par exemple, que au niveau des journaux locaux, bon, il n'est pas question, je suis censuré, etc., etc. Ça va même très loin. Au niveau d'Alternabio, par exemple, ça fait des années que moi, je fais des propositions pour faire quelques exposés, je veux dire, à un endroit que je connais bien, puisque je pratique le renouvelable depuis les années 1960, sur suggestion des autorités dites supérieures, on a considéré que ma présence n'était pas souhaitable dans ce type de...
Donc on peut constater effectivement qu'il peut y avoir, des freins à différents niveaux.
Bah ouais. Pour finir, je veux dire, on s'est tous trouvés confrontés. Moi, on était avec une quinzaine dans la commission énergie du Conseil régional dans les années 81-82. On s'est tous trouvés confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes obstacles, parce que la réalité, c'est que quel que soit le type de connaissance, tu es tenu au secret, autrement dit, tu es tenu à alimenter la rétention, surtout, j'insiste, quand tu ne fais pas partie de la bonne chapelle.
Eh oui, bien sûr. Alors, l'omerta que Alain est en train de définir à l'échelle locale ou régionale, bon, évidemment, on vient de voir, elle prend sa source au plus haut niveau. Alors, il y a une espèce de mythe, hein, qui fait croire que la France est indépendante parce que, grâce au nucléaire, à 50%, nous sommes indépendants. En réalité, c'est pas vrai du tout. Pourquoi ? Parce qu'on importe la totalité du minerai, hein, le minerai d'uranium, ça arrive du Kazakhstan, du Canada, du Niger, avec tous les problèmes géopolitiques que ça peut poser, on s'en rend compte au Niger actuellement, et qu'en réalité, en plus, ces ressources sont complètement limitées. Alors, pour alimenter les centrales, qu'est-ce qu'on fait ? Les gros malins de français, l'uranium, il est enrichi dans des usines situées sur le sol français. Alors, on comptabilise l'uranium comme une ressource nationale. L'arnaque, elle peut commencer sur des trucs comme ça. Si on suit le même raisonnement, imaginez pour le pétrole, vu que le pétrole est traité dans nos raffineries, ça pourrait être une ressource nationale bientôt. On nous a aussi sorti des trucs du genre, grâce au nucléaire, on sera moins dépendant du pétrole. Malheureusement, c'est totalement faux. On en consomme 10% de plus que les Allemands. Sur ces points, les politiques falsifient totalement la réalité.
Donc, je suis ton raisonnement et je vais avoir simplement qu'un raisonnement de technicien. Pour une fois, je ne vais faire ni philosophie et surtout pas m'inscrire dans les connotations d'ordre politique. En ce qui concerne le nucléaire, ramenons ça aux chiffres. Moi, je suis un scientifique de formation, hein. Bon, ramenons ça aux chiffres. Une centrale nucléaire, la meilleure du monde, n'a jamais dépassé 34% de rendement.
Ah ouais, ça peut presque dire. Ouais. Entre les périodes froides où on peut plus, les périodes chaudes où on peut plus.
C'est complètement fou parce qu'on est sans arrêt en train de te gonfler avec le rendement qu'entre parenthèses on confond très souvent avec rentabilité. Or ce sont deux notions
complètement
différentes. Il faut bien comprendre que quand on dit 35% de rendement maximum pour un réacteur à fission, j'entends bien, hein. Il faut quand même une tonne de minerai pour avoir un kilo d'uranium. Un kilo d'uranium, il faut la production d'une centrale nucléaire, au moins au niveau d'une tranche, pour l'enrichir. Qu'il va y en avoir entre 15 et 30 kilos à l'intérieur du cœur du réacteur. Que la turbine à vapeur n'a jamais dépassé 30 à 40% de rendement. Et l'alternateur, 95% de rendement. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, on a 35% de rendement. 35% de rendement, c'est le rendement d'un moteur à explosion.
Tu as soulevé fusion.
Ouais. Alors, oui, c'est au niveau du rendement, c'est 35%. Ceci étant dit, il faut bien comprendre que si tu considères, si tu reconsidères plutôt la totalité de ce qui vient d'être dit en puissance instantanée, la plus mauvaise des éoliennes sur notre territoire
c'est ça, je voulais la comparaison,
a un rendement supérieur en puissance instantanée à une centrale nucléaire en puissance instantanée.
Tu as parlé d'un mot, alors on va pas rentrer trop dans le technique, mais quand même là, ça m'a fait tilt. Tu as précisé, c'est très bien que tu l'aies fait, de fusion. Hein, de fission. Ma pensée a anticipé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui définissent, pas mal de scientistes on va dire, qui définissent et qui disent finalement l'idée c'est quand même que l'industrie actuellement elle travaille en quête de la fusion nucléaire avec tout ce que ça sous-entend, toi le technicien, à savoir que le processus est complètement inversé. Dans la fission nucléaire on a des particules qui partent à l'extérieur et qui font des déchets, dans la fusion nucléaire les particules sont broyées en interne. On inverse le processus, on va pas rentrer plus loin qu'en avant dans le détail. Moi j'ai entendu ça par quelqu'un du CEA, du Comité à l'énergie atomique, donc il y a déjà une bonne quinzaine d'années, et les types disaient voilà, dans les options faibles il va nous falloir un siècle pour y arriver, dans les options optimistes, en 50 ans on peut avoir une énergie totalement propre. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah oui, moi je pense. Bah de toute façon, même si on n'en a pas la volonté politique, on sera confronté à d'autres réalités. Il faut bien comprendre qu'en ce qui concerne l'uranium 235, par exemple, moi je pense que dans une trentaine d'années, on est au bout, si tu veux, du réacteur conventionnel et on va être obligé de les arrêter, faute de combustible. Il est vrai qu'en tant que scientifique, on peut aussi réfléchir aux autres filières. Par exemple, on a au niveau du nucléaire, on a les filières uranium-238, thorium-232, on a la filière deutérium-tritium, à condition qu'on n'ait pas épuisé les réserves de lithium, puisqu'on en a besoin dans le processus hypothèse fusion contrôlée. Ensuite, on a les autres possibilités telles que la filière deutérium, etc., etc. Mais bon, de toute façon,
c'est compliqué tout ça un peu. Hein.
Ben oui, non, mais bon, je veux dire, il faut de préférence, il faut l'expliquer simplement pour dire que de toute façon,
on sera au bout, de la logique de.
Ouais.
De,
si tu veux,
de toute manière, par la ressource, tu dis toi. Hein.
Voilà, d'une part par la ressource et que s'il reste une possibilité quant à l'utilisation de l'énergie nucléaire, il n'est pas exclu que ça puisse être dans la fusion, mais bon.
Mais non, mais s'il n'y a plus de ressources, on n'aura même pas le temps d'y arriver à la fusion. C'était le sens de ma question, ça va être compliqué.
Ça risque d'être compliqué. Bon. Et à mon avis, ça ne constitue pas non plus une solution. Celle-là, par contre, est viable. Elle est viable, je veux dire.
Sur le long terme, des milliards d'années.
Dans la fusion de l'hydrogène en hélium, par exemple. Ouais.
On ne va pas rentrer trop dans le détail technique. Les solutions. Alors, dans les solutions, on a évidemment une association qui travaille depuis très longtemps et d'une façon efficace, qui s'appelle Negawatt. Et cette association, elle explique très clairement le processus. Finalement, notre problème, ce serait d'arriver à transférer l'énergie au niveau local, dans un premier temps, avant de parler du niveau individuel, et puis de réussir à créer des mécanismes de gestion qui soient plus coopératifs et beaucoup moins hiérarchiques. Alors, extrêmement intéressant, évidemment, dans cette logique, Negawatt dit, voilà, il y a deux manières de récupérer de l'énergie, d'extraire ce qu'on appelle les négawatts. Un, il faut investir dans l'efficacité des appareils électriques. Ça, c'est le premier aspect, pour baisser la consommation à rendu égal. Mais en parallèle, évidemment, il faut une politique de sobriété pour traquer les gaspillages. Et surtout, la politique de sobriété, si on est malin, elle est gratuite. Hein, ça, c'est un paramètre. En combinant les deux, Negawatt dit, on diminuerait de 45% notre consommation d'énergie.
Oui, je suis assez d'accord.
Optimisation d'un côté, économie de l'autre.
Je suis assez d'accord, indépendamment du fait que je ne partage pas du tout la façon de penser de l'association Negawatt.
Ah, pourquoi? Tiens, rentre un peu dans le détail, là. Pourquoi?
Non, je ne voudrais pas être trop dur, si tu veux, avec eux. Ce que je reproche à ces gens-là, comme pas mal d'autres associations, si tu veux, c'est que ils sont toujours... Moi, c'est un truc maintenant qui... Je suis d'un âge, si tu veux, où je suis plus irrité par ce genre de choses, mais je suis toujours très attentif au moment où ça m'arrive, quoi. C'est toujours des gens qui entretiennent le mythe du discours sur la problématique qui, à mes yeux, ne se réduit qu'à l'état du métallogue. Ça veut dire que c'est effectivement un discours sur la problématique, mais il n'y a jamais de relèvement du fond. Et moi, je veux une discussion sur le fond.
Voilà. Alors... c'est un peu intéressant parce que justement on est au stade là, il nous reste une dizaine de minutes, on est au stade quand même de faire un petit tour sur les solutions et grâce au dossier que Télérama a monté, un dossier relativement intéressant en début de mois de février, on a quelques exemples et entre autres de Bretons, parce que la Bretagne on parle souvent de leur côté négatif du lisier, des problèmes avec le port. Simplement ils ont fait quelque chose de très intéressant. On a un pays qui s'appelle le pays du Méné en Bretagne, qui vient de réussir une révolution verte absolument hallucinante, zéro atome, zéro pétrole. Comment ils ont fait ? Ils ont eu quelques idées. Ils ont commencé par voyager. Ils sont allés voir un petit peu ce qui se faisait partout. Et alors, les types, ils sont revenus de leur voyage totalement convaincus. Et ils ont dit, on va utiliser ce qu'on a sous nos pieds, parce que c'est avant d'aller chercher ailleurs et avant d'attendre que l'État nous fournisse de l'énergie, on peut peut-être se démerder. Grosso modo, les déjections de porcs, les boues issues de l'industrie agroalimentaire, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle la méthanisation, c'est-à-dire qu'ils laissent fermenter ces déchets sans oxygène, ils en tirent des biogaz. Alors on va rentrer dans le détail 5 secondes, méthane, CO2, et ils produisent grâce à ça de l'électricité. Alors ils ont créé une entreprise qui s'appelle Geotexia, qui est détenue par une trentaine d'agriculteurs, qui traite 75 000 tonnes de lisier de produits agroalimentaires. Grosso modo, ça leur permet de créer l'équivalent de la consommation électrique pour l'intégralité de leur pays. Rien que par ce procédé-là, pour la même période, ils arrivent à créer, à être autonomes de ce côté-là. D'un autre côté, ils vont un petit peu plus loin, il y a des élus, il y a des initiatives. Il y a un bled ou un type, le maire, il dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on se prend la tête, là ? Vous savez, le diesel, là, monsieur Diesel, il a fait des manuels, il a rien inventé, le mec, hein, c'était de l'huile de ricin. » Alors, il a créé une huilerie, et puis son huilerie, il a dit « On va faire une alternative au pétrole, on va pressuriser à froid des graines de colza. » Alors, c'est totalement interdit en France pour les voitures individuelles, à la différence de l'Allemagne, précisons-le. Hein. Mais on peut quand même alimenter 3000 tracteurs, soit trois fois nos équipements sur la communauté. Et puis avec les déchets des graines, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des tourtereaux de colza et puis on nourrit les bêtes. Donc, vous voyez, on n'importe plus de soja brésilien. Donc, on s'est réapproprié les moyens de production. On a diminué la longueur des circuits. Je trouve que c'est un exemple fascinant.
C'est un bon exemple, si tu veux. Là, c'est vrai que l'exemple de la méthanisation, qui est un truc qui est très, très connu, hein, ça aussi, je veux dire, ça a plus d'un siècle. Mais il faut que ça soit développé. Et puisqu'on en est au stade de la méthanisation, je crois qu'on ne peut pas non plus passer le fait qu'il y a un vieux procédé qui existe, c'est l'utilisation de l'hydrogène.
Ouais.
Et l'hydrogène, c'est quand même un sacré produit, parce que c'est l'un des gaz, je veux dire, qui a le meilleur rendement du type calories-kilos. Et je donnerai qu'un petit exemple, si tu veux. C'est un mètre cube d'eau. Un mètre cube d'eau, ça représente 890 litres d'oxygène et 111 litres d'hydrogène. Autrement dit, les 111 litres d'hydrogène dans un mètre cube d'eau, tiens-toi bien, c'est quand même l'équivalent de 490 litres d'essence. Si tu multiplies le mètre cube et que tu fais un kilomètre cube, bon, c'est une unité qu'on n'use pas souvent, mais après tout, pourquoi ne pas s'amuser non plus
former, ouais,
à se travailler les ménages. Non, ouais. Un kilomètre cube d'eau, quoi, c'est égal à 470 millions de mètres cubes d'essence.
Oh, ouais, le ratio est hallucinant. Ouais. Ah, ouais.
Alors, tu vas me dire, bon, le problème de l'hydrogène, c'est sa production. Alors, bien sûr.
Son stockage, peut-être aussi, non ?
Oui, alors...
Production et stockage.
Oui, mais le stockage de l'hydrogène, il peut être fait sous trois formes. On n'aura pas le temps de le développer, hélas.
Non, on
ne
va pas rentrer trop, en plus. Tu reviendras, parce qu'en plus, il va falloir qu'on reparle d'autre chose.
Je ne cite que ça, si tu veux, sous la forme de gaz, sous la forme de liquide, et aussi sous une forme dont on ignore souvent l'existence et dont on ne parle jamais, qui est une forme solide qu'on appelle les hydrures d'hydrogène.
Ah ouais, tu ne connaissais pas ça.
Hydrure d'hydrogène, qui est un truc qui se transporte beaucoup.
Avant de revenir, si on a le temps, sur le schéma dont tu me parlais concernant l'éolien, on va prendre un autre petit exemple et je te rends la main tout de suite, Alain. Les maisons passives, on parle d'économiser. Avant de dépenser de l'énergie, il faudrait peut-être commencer par l'économiser. Alors, évidemment, il y a le concept, début, voilà, c'est fondamental, le concept de la maison passive. Alors, bon, vous commencez toutes et tous à être un petit peu informés sur ce qu'est une maison passive. Il faut bien comprendre quand même que c'est assez hallucinant. Je vais vous donner, moi, trois chiffres qui je me suis amusé à faire un calcul hier. Hein. Une maison passive, elle est considérée comme telle quand elle dépense moins de 120 kW par mètre carré par an. Grosso modo, pour vous donner une idée, ça se termine par une facture de 10 euros par mois de chauffage. Chacun voit la facture, la tronche de sa facture EDF, vous pouvez faire le ratio. Alors moi, je me suis amusé. Alors sachez quand même que c'est une performance qui peut également être atteinte en rénovation, qu'il n'y a pas besoin de construire une maison neuve, et que très souvent l'argument c'est oui, mais monter une maison passive ça coûte cher, c'est pas vrai, aujourd'hui les coûts sont équilibrés par rapport à une maison parpaing.
Oui, il est vrai qu'aujourd'hui ça coûte un petit peu moins cher qu'il y a 30 ou 40 ans quand on faisait des maisons solaires, ceci étant dit, en réhabilitation, il faut bien comprendre.
C'est un peu plus cher en réhabilitation.
Et puis les problèmes sont complètement différents. Tout simplement parce que dans la majorité des cas et dans la totalité de ces articles, et on fait toujours appel au coefficient d'isolation. Je vous rappelle à toutes fins utiles que le coefficient d'isolation est un paramètre important dans une maison, mais que sa caractéristique inertielle est largement aussi importante que le coefficient d'isolation.
Voilà. Sans vouloir étaler mon expérience personnelle, j'ai eu la chance, moi, de mettre en construction une maison bois il y a 4 ans. Je sais ce que je consomme. Je peux vous dire que le coût, il est extrêmement rapide. C'est 350 euros par an pour chauffer la maison. Elle est à ce qu'on appelle simplement la RT 2010, même pas la RT 2012. C'est-à-dire qu'elle a été isolée à peu près proprement. Et l'écart énergétique au-delà du confort de vie est absolument hallucinant. Hein. C'est quelque chose.
Et je crois que, puisque tu as le bénéfice du vécu, je crois qu'il faut une fois de plus insister sur le fait que la notion de confort n'est pas liée à la notion de température.
Absolument, surtout avec la notion de paroi froide, mais on n'arrivera pas là-dessus de d'inertie et du matériau et ainsi de suite.
Absolument.
Je termine ma petite anecdote sur le passif. D'ailleurs, précision, à la fabrication, ne vous faites pas embarquer, une maison bois ou une maison passive coûte le même prix au mètre carré qu'une maison en parpaing. On a aujourd'hui des procédés qui ont baissé énormément en coût et on a des entreprises d'ailleurs très qualifiées en Aveyron pour vous renseigner. Je termine ma petite anecdote sur le spécial passif. Donc on disait 10 euros par mois en chauffage. Alors je me suis amusé à faire un petit calculé hier soir, j'avais rien d'autre à faire. Si vous faites ça, que vous dépensez moyennement, hein, c'est à peu près le cas de tout le monde, 1120, 1200 euros grosso modo de facture énergétique par an, ça veut dire que vous allez économiser 1000 euros tous les ans. Alors vous vous amusez, vous mettez, si ça existe encore, vos 1000 euros sur un compte en banque, vous pouvez les mettre ailleurs, mais vous vous démerdez pour trouver 2% de rendement. Il y a quand même suffisamment de moyens de trouver 2% de rendement. Et ben j'ai fait le calcul, au bout de 20 ans, vous vous retrouvez à 24 700 euros de bénéfices, ce qui fait qu'en cas de galère, en cas de perte d'emploi, en cas de saisie sur votre maison, ça vous donne la possibilité de payer un loyer de substitution pendant 50 mois. Voilà qui doit faire réfléchir. Je me suis amusé à prendre ça sous cet axe-là.
C'est un ratio intéressant à calculer. Que je pourrais être amené à le rediscuter.
Est-ce qu'en deux minutes, tu peux aborder ou c'est trop court et on te revient une prochaine fois sur le schéma éolien?
On en parlera à propos des éoliennes. Je voulais simplement dire que aujourd'hui, tout le monde s'est lancé d'une part contre les éoliennes. Je peux le comprendre. Et d'autre part, dans les installations de photovoltaïque. Je me permets de faire une petite remarque que parmi les nouvelles capacités des productions en construction, bien sûr, les installations photovoltaïques et les parcs éoliens pèseront sur la facture des consommateurs que nous sommes via la contribution au service public de l'électricité. Ça va nous coûter très cher.
Mais bien sûr, c'est intégré dans les factures. Hein. Actuellement, on finance déjà ça. Hein.
Absolument.
Et en sachant que la mutation, on est en train de financer la mutation et le transfert des sociétés qui possèdent le pétrole vers les énergies renouvelables.
C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de Négawatt et je pourrais parler d'autres associations. Si tu veux, le fait de s'investir et d'investir à destination d'une installation photovoltaïque raccordée sur le secteur, à mon avis, n'est pas une garantie d'une prise de conscience écologique.
Non, bah, par contre, ça soulève quand même un problème de fond. On a compris, ça fait 20 fois qu'on en parle, que les industriels du pétrole ou des énergies fossiles sont en train de se faire refiler le bébé grâce à nos financements, par l'intégration dans nos factures de leur propre mutation, c'est-à-dire comment ils vont continuer à gagner du fric sur notre dos et à s'approprier cette espèce d'énergie, qu'elle soit renouvelable ou non, d'une façon collective. On vient de prendre l'exemple en Bretagne où on se rend compte que des individus ont la possibilité d'influer sur leur avenir. La seule question, et je pense que ça fera l'objet d'une prochaine émission, c'est comment, à titre individuel, nous pouvons peser au niveau local pour que nos politiques, en commençant par les petites mairies, fassent des choix systématiquement tournés vers l'économie d'abord de l'énergie et après les alternatives.
Pour poser en question, toi qui es un inconditionnel de la démocratie, tu devrais préconiser à tout le monde d'aller voter.
Oh Alain, il n'a pas pu s'empêcher de la faire. Eh bien écoute, moi je trouve que c'est une belle parole. Monsieur le président de Radio Sainte-Afrique, je resterai toujours surpris quand même qu'un anarchiste puisse prétendre au poste. Mais voilà, cette histoire de répondre à ta petite vanne. On va vous faire des gros bisous. On remercie évidemment, encore une fois, nos amis techniciens. On vous encourage... Etienne, on vous encourage évidemment à passer à la radio. Si ça vous intéresse, c'est assez intéressant une radio. Vous pouvez faire des stages, vous pouvez vous faire former ou rester simplement auditeur et nous accompagner toutes les semaines. Restez sur Radio Saint-Taf. Bonne journée. Ciao, ciao.
Salut.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous.
J'avais oublié les 10% d'amende pour le retard. Il a osé me frapper. Il se rend pas compte.